On va continuer avec Juliette à parler de l'externalisation de l'asile et de l'immigration. Tu nous en parlais déjà la semaine dernière avec en revenant sur la journée d'études qu'avait donné le GISTI le 20 mars dernier. Donc on continue aujourd'hui avec qui ?
Alors, on continue avec le GISTI. C'était essentiellement le GISTI qui en parlait, d'ailleurs, plutôt que moi. On a vu, déjà, vous avez entendu tout à l'heure Ghislaine Glasson-Deschaumes, qui fait partie de la plateforme Euromed, également de la Maison de l'Europe de Paris. Et on va écouter maintenant Caroline Intrant, qui fait partie du collectif La CIMAD, et qui va expliquer, en fait, de quelle manière, plus précisément, l'Union européenne s'y prend pour, sous couvert de protection, pour tenir les migrants à l'écart. Et ça s'appelle les programmes de protection régionaux.
Bonjour. Donc, ma tâche n'est pas aisée, puisque je suis censé expliquer qu'est-ce que l'externalisation.
Et donc, en fait, pour tout vous avouer, Pierre est en train de faire ses débuts à la technique. Donc, c'est pour cette raison que le disque n'est pas parti dans le bon ordre. On lui avait dit de passer la piste 2. Il en a évidemment fait qu'à sa tête. Voilà, donc en tout cas, je peux vous rappeler. Oui, Pierre me dit quand même dans le casque qu'il faut que je rappelle le site, puisque c'est loldf.free.fr. Sur le site, vous retrouvez toutes les émissions, les chroniques, notamment celle de Guillaume Yom, toutes les semaines, etc. Et même les émissions quand elles sont bien enregistrées, bien montées. Et des fois, elles partent même comme il faut.
Je vais donc vous parler d'un des instruments de l'Union européenne pour mettre en œuvre la politique d'externalisation. Et cet instrument s'appelle les programmes de protection régionaux. Ce sont des programmes qui ont vocation à mettre en place un régime de protection équitable, donc on est dans le domaine de l'asile, et à permettre l'accès à la protection et à des solutions durables pour les réfugiés au stade le plus précoce. Ces programmes de protection régionaux ont vocation à être mis en place dans à la fois les régions d'origine, mais également dans les pays de transit aux portes de l'Union européenne. Et l'objectif est de mettre en place ces programmes en étroite collaboration avec ces États, avec l'idée sous-jacente de limiter l'accès au territoire européen. Ces programmes font partie du plan global pour l'externalisation. La mise en place de ces programmes se fait en étroite collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et est entièrement financée par l'Union européenne. Alors, il y a essentiellement quatre éléments. D'abord, le développement des capacités des pays concernés en matière d'asile, c'est ce qu'on appelle le « capacity building », le développement des procédures pour l'accès à la protection, le développement des systèmes d'identification des personnes et d'enregistrement, des capacités d'accueil, construction de centres d'accueil, de la formation des différents acteurs de l'asile, formation des fonctionnaires, des magistrats, de la société civile, mais également des gardes-frontières. Ça, c'est le volet protection des programmes de protection régionaux. Un des objectifs, c'est la mise en place progressive de systèmes de programmes de réinstallation des réfugiés. Alors, qu'est-ce que c'est que la réinstallation? Ça fait partie des trois solutions durables décrites par le HCR. Les solutions durables pour les réfugiés sont l'intégration des réfugiés, le rapatriement dans le pays d'origine et donc la réinstallation. Et elle consiste à faire venir par quota un certain nombre de personnes reconnues réfugiées dans une région d'origine ou une région de transit sur le territoire d'un État membre de l'Union européenne, puisque c'est dans cette sphère qu'on se situe. Quels sont les pays visés par la Commission pour le développement de ces programmes? Les nouveaux États indépendants, donc Ukraine, Biélorussie, Moldavie. Les États d'Afrique subsaharienne sont particulièrement visés, mais également les États d'Afrique du Nord, la région de l'Afghanistan, la Corne de l'Afrique, à la fois des pays de transit et des pays d'origine des migrants. La question est donc véritablement de savoir si l'Union a vraiment l'intention, comme elle le décrit dans son programme, de développer des programmes de protection ou de créer des zones tampons permettant de retenir les demandeurs d'asile et les réfugiés pour qu'ils n'atteignent plus les territoires européens. Évidemment, je penche plutôt pour cette deuxième hypothèse, puisque un certain nombre de points nous permettent de douter de cette intention. Premièrement, confusion des genres. Une confusion des genres dans le discours entre les volontés de protection et la volonté de fermeture des frontières. Notamment, la présidence autrichienne a dans son programme d'action du 3 janvier 2006, qui est donc celui sous lequel on est actuellement sous la coupe, met très clairement l'accent sur la lutte contre le crime organisé, la corruption, le terrorisme et la gestion des flux migratoires. Elle développe l'action en matière d'asile uniquement dans ce contexte-là, en l'incluant dans la question de la gestion des frontières. Donc ça, c'est très clairement non séparé. La protection devient uniquement un élément qui permet de développer la gestion des frontières. Deuxième chose, la question que je me pose, c'est de savoir si les programmes de protection régionaux pourraient potentiellement devenir les précurseurs du traitement externalisé des demandes d'asile. Vous rappelez sûrement qu'en 2003, Tony Blair avait fait les premières propositions qui ont fait hurler à la fois les ONG et le monde et une certaine partie des politiques, avait fait ces propositions de mettre en place des centres qu'il avait appelés Transit Processing Center, des centres situés en dehors des frontières de l'Union et qui avaient pour vocation de traiter les demandes d'asile des personnes en route ou ayant atteint l'Union européenne. Le plan de Tony Blair reposait sur un postulat que le régime de protection international manquait de crédibilité parce que la majeure partie des réfugiés qui faisaient une demande d'asile étaient déboutés, donc des faux demandeurs d'asile, et qui donc menaçaient le système de protection international. Un an après, après l'abandon de ces projets qui ont été rejetés avec véhémence par plusieurs gouvernements européens, la Commission a repris à son compte ce postulat dans sa commission du 14 juin 2004 et a repris exactement les mêmes objectifs. Et c'est sur la base de cette communication qu'elle a également rédigé la communication sur les programmes de protection régionaux. L'Ukraine était déjà visée par le Royaume-Uni en 2003 comme le lieu de la mise en place des premiers camps. Et il a été aussi proposé que l'Ukraine, un peu plus tard en 2004, devienne le lieu de l'accueil de centres pour les demandeurs d'asile tchétchènes pour l'ensemble de l'Union européenne. Alors, la Commission ne propose pas clairement le développement de camps, ne propose pas non plus clairement de processus pour renvoyer les demandeurs d'asile dans ces lieux. Mais tout ce qui se développe à côté, ça permet quand même de douter un peu, est-ce que ces pays visés par les programmes de protection régionaux ne vont pas devenir des pays où seront testés en premier ce processus d'externalisation du traitement de la demande d'asile. L'idée globale, c'est de conclure avec ces pays visés par les programmes de protection régionaux des accords de réadmission, donc des personnes qui auraient transité sur le territoire de ces États et pouvoir les renvoyer directement. D'ailleurs, la Commission négocie un accord de réadmission avec l'Ukraine, la Russie et le Maroc, par exemple. Notamment pour l'Ukraine, l'idée est d'échanger la possibilité de signer cet accord de réadmission contre le fait que les ressortissants ukrainiens se voient dispensés de visa pour circuler à l'intérieur de l'Union européenne. Évidemment, ces accords de réadmission ne contiennent pas de garantie spécifique en matière d'asile. Donc une personne qui demande l'asile dans un État membre de l'Union européenne pourra donc éventuellement être renvoyée grâce à ces accords dans des États qui les réadmettront, sans pour autant être sûr que le pays de réadmission ne garantisse une demande d'asile équitable et un non-renvoi dans le pays d'origine. Parallèlement, il y a cette notion de pays tiers sûr. Dans la directive sur les procédures qui a été adoptée, on parle de cette notion de pays tiers sûr qui commence à transpirer dans les législations européennes. Et bien qu'une liste de pays tiers sûrs n'ait pas encore été adoptée par les États membres de l'Union européenne, il ne serait pas contraire à la directive sur les procédures à l'heure actuelle pour un État membre de renvoyer des demandeurs d'asile dans un pays visé par les programmes de protection régionaux. Ça se passe déjà puisque l'Ukraine a signé des accords de réadmission bilatéraux, donc pas avec l'Union européenne dans sa globalité, mais a signé des accords de réadmission bilatéraux avec la Slovaquie, la Pologne et la Hongrie, les trois pays européens avec lesquels l'Ukraine a une frontière. Et ces accords de réadmission bilatéraux sont mis en œuvre de manière tout à fait chaotique. Le Human Rights Watch, dans son rapport de novembre 2005, décrit très bien la manière dont les personnes qui transitent par le territoire ukrainien, et parfois même qui ne transitent pas par le territoire ukrainien, sont renvoyées par la Pologne, la Slovaquie ou la Hongrie directement en Ukraine sans que ces personnes n'aient pu faire une demande d'asile, sans que ces personnes n'aient pu même être entendues à la frontière. Le fait même qu'il existe un accord de réadmission permet à ces pays de renvoyer directement en Ukraine ces demandeurs d'asile. Actuellement, il existe déjà des lieux dans ces pays visés par les programmes de protection, des lieux de détention, des lieux de réception de demandeurs d'asile. En Ukraine, par exemple, et vous le trouverez aussi dans le rapport de Human Rights Watch, il y a une dizaine de camps qui existent déjà, des centres pour vagabonds, c'est comme ça que ça s'est traduit, et puis des centres de détention. Et le rapport du Human Rights Watch décrit des conditions absolument terribles pour la détention de ces personnes. Et parallèlement à ça, l'Union européenne finance d'ores et déjà la construction en Ukraine de centres de détention et de centres d'accueil, les deux, pour migrants irréguliers et déboutés. Et l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, est financée sur des fonds européens, les fonds AENEAS, les fonds qui sont utilisés pour le financement des programmes de protection régionaux, pour la construction de deux de ces centres au nord de l'Ukraine, à hauteur de 4 millions d'euros. Troisième point, après la confusion des genres et puis la possibilité que ces programmes de protection deviennent des lieux d'expérimentation du traitement externalisé. Troisième élément, est-ce que ces programmes de protection régionaux sont bien sérieux ? À l'heure actuelle, les pays de transit pilotes qui ont été choisis par l'Union européenne sont des États, donc l'Ukraine, Moldavie, Biélorussie, où la protection est inexistante et où les droits de l'homme sont loin d'être respectés, où la situation économique, politique et sociale est loin de permettre l'intégration des migrants ou des réfugiés. L'Ukraine, signataire de la Convention de Genève seulement depuis 2002, ne dispose pas d'une législation sur l'asile qui permette un accès convenable à la procédure, ni à un avocat, ni à un interprète. L'Ukraine détient de façon tout à fait arbitraire des demandeurs d'asile pendant des périodes illimitées, sans que ces personnes ne puissent avoir accès à un conseil ou à un juge. Ces personnes font de surcroît l'objet de violences répétées, de viols, etc. Le rapport de Human Rights Watch estime que les conditions de détention en Ukraine se montent à des traitements inhumains et dégradants. Pire, elles peuvent également être renvoyées, ces personnes, après cette longue détention, vers des pays où leur sécurité n'est absolument pas garantie. On renvoie des Tchétchènes, on renvoie d'autres personnes vers des pays d'origine où ils ont des risques de torture. Human Rights Watch estime également que l'Ukraine est actuellement incapable de gérer les migrants et les demandeurs d'asile sur son territoire et ne peut également pas être considérée comme un pays sûr pour le renvoi des migrants en situation irrégulière et des demandeurs d'asile déboutés. Je pourrais aussi vous parler de la Biélorussie et de la Moldavie, mais en fait j'ai très peu d'informations, à part l'actualité sur la Biélorussie, qui est quand même assez intéressante, puisque l'Union européenne, qui n'entretient pas de relations diplomatiques avec ce pays, bien que dans la communication il est très clairement mentionné que les pays visés par les programmes de protection régionaux sont des pays avec lesquels l'Union européenne développe des relations. Alors, la Biélorussie est quand même reconnue par l'Union européenne de manière assez claire comme une dictature. Mais évidemment, j'ai parlé que des pays de transit pour l'instant. Les programmes de protection régionaux concernent également les régions d'origine. Les questions sur les intentions de l'Union européenne de retenir les demandeurs d'asile dans ces régions afin qu'elles n'atteignent pas l'Union européenne sont encore plus évidentes. Exemple, le pays pilote, la Tanzanie, c'est donc un des pays les plus pauvres du monde, qui reçoit pourtant la population réfugiée, la quatrième la plus importante du monde. 602 100 réfugiés, 400 000 personnes vivent dans des camps et dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Les États membres ont accordé une aide de 4,9 millions de dollars pour améliorer les conditions d'accueil des réfugiés en Tanzanie, dans le cadre des programmes de protection régionaux. Et le HCR fait notamment état des difficultés au niveau de la sécurité alimentaire des réfugiés, de la sécurité simple tout court des personnes dans ces camps, des conditions très difficiles de détermination du statut et du non-respect du principe de non-refoulement à l'entrée en Tanzanie. Le HCR fait également état du fait qu'en Tanzanie, il n'y a aucune solution durable qui n'est actuellement envisageable. Et plus cynique encore, c'est 5 millions d'euros qui ont été dédiés à la Tanzanie pour le contrôle de ses frontières. Donc vous voyez un peu la proportion. Dernier point, la réinstallation. C'est un élément central des programmes de protection régionaux. À ce jour, aucun État européen n'a véritablement signé d'engagement en faveur de ce processus de partage du fardeau dans le cadre des programmes de protection régionaux. Et si à terme, les programmes de réinstallation se mettaient en place, ils pourraient donc permettre aux États européens de venir puiser dans les réservoirs des pays visés par les programmes de protection régionaux les réfugiés qui n'auront jamais pu atteindre le territoire européen.
Mais aujourd'hui, tout est gâté, l'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même nos maires au marché sont divisés. Oh Lord, mon pays va mal, mon pays va mal, mon pays va mal, de mal en mal, mon pays va mal. Avant, on ne parlait pas de chrétiens ni de musulmans, mais aujourd'hui, ils ont tout gâté, l'armée est divisée, les étudiants sont divisés, la société est divisée, même maman au marché sont divisés. La xénophobie appelle l'ivoirité. Ils ont créé les houlets et les olés. Mais mon pays va mal. Mon pays va mal. Mon pays va mal. De mal à mal. Mon pays va mal. Kojamana nyamula. On va faire gagner Jamana nyamu.
C'était Dikon Jaffa Coli dans les oreilles loin du front. On continue, Juliette, avec donc un extrait de cette journée d'études organisée par le GISTI sur l'externalisation de l'asile et de l'immigration.
Et après Caroline Intrant de la CIMAD, on va entendre Jean-Pierre Allot du GISTI qui va nous parler de la réinstallation des réfugiés.
La réinstallation, elle se situe, et depuis longtemps, dans le cadre d'un sentiment général que le réfugié, c'est une charge et un fardeau. Et si on veut trouver une justification à cette réinstallation, moi j'en ai trouvé un dans la Convention de Genève, dans le préambule, qui dit, de façon d'ailleurs réaliste, qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges exceptionnellement lourdes pour certains pays, et que la solution satisfaisante des problèmes dont l'Organisation des Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse, être obtenue sans solidarité internationale. La réinstallation, c'est assez ça. Il s'agit de trouver des pays, si possible, d'accueil définitif et de déplacer des réfugiés du premier pays d'accueil dans cet autre ou ces autres, car il y a des réfugiés qui font plusieurs pays avant de trouver leur destination, donc de déplacer ces réfugiés vers un pays qui leur donne une protection définitive. La réinstallation, donc, s'est mise en place sur la base du volontariat, soit parce que des pays se déclarent volontaires à recevoir un certain quota de réfugiés, ou parce que le HCR démarche un certain nombre de pays volontaires mais sans quota pour accueillir un groupe ou quelques individus. Et cette réinstallation, elle a été massivement utilisée dans l'histoire depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, notamment au moment de l'invasion de la Hongrie par l'Union soviétique en 1956, pendant toute la crise de l'Asie du Sud-Est, et un peu moins, beaucoup moins même, par exemple, après le génocide au Rwanda. Cette réinstallation, qui est un moyen de répartir la charge de l'asile, qui incombe le plus souvent à des pays pauvres, globalement, comme la Tanzanie, avec ses 600 000 réfugiés, cette réinstallation, elle ne marche pas beaucoup, à vrai dire. En 1991, sur un effectif mondial de 12 millions de réfugiés, elle a bénéficié à 92 260 personnes. Donc un chiffre absolument ridicule. Cette réinstallation, utile donc pour alléger le fardeau d'un certain nombre de pays, mais aussi pour assurer la sécurité de réfugiés qui, par exemple, sont allés se protéger dans un pays voisin qui est peu apte à éviter des attentats ou des sales coups contre eux, l'éloignement par la réinstallation peut contribuer à les protéger. Tout ça pour vous dire que la réinstallation, elle a des objectifs matériels et humanitaires qui ne sont pas complètement absurdes quand elle n'est pas complètement dévoyée. Elle est d'ailleurs utilisée au-delà de l'Europe par des pays comme le Canada ou les États-Unis, l'Australie. Mais là déjà, on peut commencer à avoir des doutes. L'Australie n'accueille pratiquement plus de réfugiés spontanés, individuels, et se contente d'aller prendre des réfugiés reconnus ailleurs par l'intermédiaire du HCR. Dans les pays industriels, dans les pays occidentaux industrialisés, on s'aperçoit de façon générale que plus les pays ferment leurs frontières à l'immigration et donc à l'asile, plus ils ont tendance à regarder du côté de la réinstallation. Si on prend, par exemple, les chiffres qui ont été publiés en fin de semaine dernière par le HCR sur l'évolution de la demande d'asile dans les pays occidentaux, on s'aperçoit que la demande a baissé de l'ordre de 50% en 5 ans aux États-Unis et au Canada, la demande d'asile spontanée, qu'au Danemark, qui accueille un nombre très faible de réfugiés par la réinstallation, le Danemark se retrouve à son niveau d'accueil de 1983, en 2005. Et que l'Australie, dont je vous disais que pratiquement sa contribution à l'asile passe par la réinstallation, eh bien, les effectifs en Australie sont en baisse de 75% en 5 ans. Chiffre tout neuf du HCR. Donc, qui dit réinstallation dit absolument pas politique courageuse et généreuse en matière d'asile. C'est dans ce contexte que l'Union européenne a commencé à s'interroger sur son intérêt pour la réinstallation. C'est en novembre 2000 que la Commission européenne, pour la première fois, suggère que la demande d'asile pourrait être examinée aussi près que possible des pays d'origine des requérants, et que ça permettrait de faciliter l'arrivée des réfugiés en Europe par la réinstallation. Et c'est très peu de temps après que le ministre anglais des Affaires étrangères, Jack Straw, a cette formule intéressante. Il faut qu'on se préoccupe des demandeurs d'asile en amont de l'Europe, parce qu'il faut que les persécutés connaissent des voyages d'exil moins hasardeux. Il se préoccupe trop de la sécurité des demandeurs d'asile pendant leur voyage. Curieusement, il n'a aucun souci sur le fait que c'est la politique de fermeture de l'Europe qui complique sérieusement le voyage, qui met les mains et les pieds des demandeurs d'asile chez les passeurs et qui fait qu'à certaines frontières, on tire sur ces demandeurs d'asile. Mais quand même, Jack Straw, il est extrêmement inquiet pour la sécurité des demandeurs d'asile. Il faut vraiment que tout au long du chemin, leur parcours soit le moins dangereux possible. Et donc, pour ça, il faut que les pays de transit deviennent petit à petit des pays sûrs, aussi sûrs que possible. Et donc, il plaide, lui aussi, dans la foulée, pour que, en même temps, on commence à penser à une politique européenne de réinstallation. Le grand boom en la matière, c'est le sommet de Thessalonique en 2003, où, sous la pression du Royaume-Uni, les chefs d'État préconisent l'externalisation de l'asile sans le dire, avec des zones de protection régionale et, dans ces zones de protection régionale, des centres de transit qui, au fond, sont des camps et dans lesquels, hors de l'Europe, on va pouvoir, enfin, on pourrait, puisque le projet tel quel n'est pas passé, on pourrait examiner des demandes d'asile et même les demandes d'asile des candidats arrivés en Europe et qu'on va y ramener et qui ne pourront entrer en Europe que quand ils auront réussi l'examen de passage hors de l'Europe. Le HCR est favorable à ce type de mesure et le dit à cette époque parce qu'il faut trouver un moyen d'extraire le bon grain de l'ivraie, à savoir les demandeurs d'asile des migrants. On n'y comprend plus rien et plus on pourra faire le tri en amont, moins on aura un mélange à l'arrivée. Fort de ces idées, de cette bénédiction du HCR, en juin 2003, on ne parle plus de centre de transit, mais la Commission privilégie un système d'arrivée organisée. Là, on est loin des arrivées spontanées, de parcours individuels ou de petits groupes. Il s'agit d'organiser les arrivées en Europe par une politique coordonnée de réinstallation, dit-elle, à travers la fixation par l'Union européenne d'un quota global de réfugiés par an et que les États se répartiraient sur la base de leur volonté nationale. Alors, comment ces arrivées organisées impliquent, ou en tout cas favorisent, l'idée d'une protection dans les pays tiers? En juin 2004, la Commission affirme son intention de contribuer au renforcement des capacités de protection des pays tiers pour mieux gérer l'entrée organisée des réfugiés sur le sol européen. C'est ce qu'elle écrit. Les pays de transit sont donc supposés, grâce à l'aide de l'Europe, devenir progressivement des pays d'examen des requêtes d'asile. L'Europe allant y prendre, je cite la Commission, un nombre constant, quoique limité, de réfugiés, un nombre qui serait modulable en fonction de la capacité des États membres à accueillir des demandeurs d'asile et des réfugiés. Et c'est le HCR, avec l'Organisation internationale des migrations sur le plan des transports, qui assurerait ces voyages. Dans le programme de la Haye de novembre 2004, qui fixe les grandes lignes de la politique européenne des 5 ans à venir, on parle de dimension extérieure de la politique de l'asile et de l'immigration, en partenariat avec des pays tiers de transit et des pays d'origine. Et le Conseil invite la Commission à élaborer des programmes de protection régionaux. En janvier 2005, le Conseil des ministres d'une Europe désormais à 25 étudie les 3 volets de l'externalisation, le renforcement de la protection dans les régions d'origine, le renforcement de la protection dans les régions de transit et la réinstallation des réfugiés. Tout est lié, le système commence à être rigidifié avec ces 3 chapitres. Et le Haut Commissariat aux réfugiés fait remarquer que d'ailleurs, en matière de réinstallation, l'Europe est extrêmement en retard sur d'autres pays. Il observe que peu à peu, nous avons besoin de nous acheminer vers une réinstallation accrue et moins de mouvements irréguliers, ce qui pourra aider à réduire les situations de crise lors d'arrivées spontanées. Que le HCR parle de la réinstallation pour limiter les mouvements irréguliers qui pourraient provoquer des crises est particulièrement intéressant, dans la mesure où, s'il est garanti une chose particulière aux demandeurs d'asile, c'est la liberté de circulation, même si elle n'est pas explicitement garantie. Ce qui est interdit, c'est de le pénaliser, de le punir pour avoir franchi irrégulièrement des frontières. Et c'est ça qui crée le trouble, y compris de la part du HCR. Donc le HCR plaide pour des convois organisés, en gros, vers l'Europe. Évidemment, le Conseil de l'Europe est séduit par ce type d'idée et demande un programme de réinstallation aux fins d'une inclusion éventuelle dans les programmes de protection régionaux. La réinstallation dans l'UE de réfugiés prend donc le caractère d'une extraction de réfugiés dans les régions d'origine et dans les régions de transit. La réinstallation est un des éléments qui permet de créer une ceinture de protection autour de l'Union européenne et ce que j'appellerais une sorte de bassin d'épuration pour la protéger du tout venant. Un peu comme d'ailleurs le souhaite le HCR qui en a assez du mélange des migrants et des demandeurs d'asile. L'arsenal de la réglementation européenne comporte des procédures prioritaires dont on connaît les résultats. En France, en 2004, 1,8% des demandeurs d'asile soumis à la procédure prioritaire ont obtenu une réponse positive. Bref, tout le système juridique de l'Europe pénalise les demandeurs d'asile qui sont partis de pays d'origine sûre ou qui sont passés par des pays de transit sûrs. Donc, la crédibilité de l'Europe est extrêmement faible. Et on peut considérer que, dans ce contexte, la réinstallation sert d'instrument décoratif. Le dispositif en cours de construction, c'est quelque chose qui peut ressembler à un dispositif de filtration des migrants en général. Il est strictement impossible sur leur chemin de distinguer à vue de nez un demandeur d'asile d'un migrant. Donc, on arrêtera, on interceptera tout le monde et on fera le tri. Et très rapidement, les pays de transit vont voir quel est le profil d'étranger qu'on vient chercher chez lui une fois qu'il a assumé la procédure d'examen des demandes d'asile à la place de l'Europe. Et ce profil ayant été repéré, il y a fort à parier que le statut de réfugié, quand il sera reconnu au moins autant en fonction du profil souhaité par l'Europe que pour des raisons de protection du demandeur d'asile. Du coup, le dispositif, finalement, contribuera à faire mettre en place par d'autres pays extérieurs l'immigration choisie que Sarkozy introduit dans son projet de loi ou que l'Europe revendique comme orientation dans son livre vert. Par conséquent, pour finir, je dirais que sous prétexte de réguler les flux de demandeurs d'asile, l'Union européenne donc s'entoure d'une périphérie plus ou moins proche qu'elle métamorphose en bassin d'épuration de l'immigration qui se transformera en lieu de recrutement des ressources humaines pour l'économie européenne.
Encore une nouvelle frontière de pierres, de sabres et de canons pour séparer les frères du même sang. Partout, c'est la même histoire qui se répète. La guerre, l'héroïsme sont les mots de la planète. Après le feu et les flammes, que reste-t-il si ce n'est la cendre et la terre qui brûle? Regarde, le soleil passe les frontières sans que les soldats ne lui tirent dessus.
La colombe a les mêmes ailes. Gaza ou Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Salam alaikum. Asruf al-Awwa. Salam alaikum. Alaikum shalom. Salam alaikum. Asruf al-Awwa. Salam alaikum. Alaikum la paix.
Pourquoi cette haine depuis trop longtemps? Pourtant les trois livres parlent des vers d'Adam. La violence, la peur, la vengeance, que sèment les nouveaux prophètes et finances. Je suis né d'hier mais je suis de demain. Quelles que soient mes racines, je resterai humain. J'irai partout chanter cette chanson. Au nom du pouvoir de l'argent, ne sacrifiez pas vos enfants. Pourquoi cette haine depuis trop longtemps? Pourtant les trois livres parlent des vers d'Adam.
Respect pour toutes les religions.
la Bible, la Torah, le Coran, le Coran, le Coran. Salam alaikum.
Salam, extrait du dernier album d'Akli D. On continue sur Fréquence Paris Pluriel que vous écoutez sur 106.3 à Paris. On continue, Juliette, avec un compte-rendu que tu nous fais de la journée d'études qu'a organisé le GISTI le 20 mars dernier.
Voilà, et avant de vous présenter la prochaine intervenante, je voudrais m'excuser pour les coupes dans le son qui n'étaient absolument pas prévues. Donc ça, soit c'est la faute à Linux chez moi, soit c'est la faute à Sony chez FPP, hein, partout la balle au centre. En tout cas, on va maintenant écouter Claudia Cortés-Dias, qui est membre du GISTI, et qui va nous parler des ripostes juridiques. Accrochez-vous bien, parce qu'elle va très très vite.
Bonjour. Nous avons entendu parler au cours de cette journée des différentes formes que l'externalisation peut prendre, externalisation en matière de politique d'asile et d'immigration et de leurs dangers. Nous avons certainement omis de parler d'autres formes, tant ces formes sont diverses, s'agissant d'un domaine d'ailleurs où les États ne manquent pas d'imagination pour mettre en place d'autres formes d'externalisation. Au vu de ces constatations au cours de la journée, une question se pose, nous oserions même dire s'impose. Que faire? Quel est le rôle et la place de la société civile? Sur quels moyens peut-elle compter pour lutter contre cette externalisation? Et de quels outils peut-elle faire usage pour s'attaquer à la violation des droits fondamentaux des immigrés et des demandeurs d'asile que l'externalisation implique? Alors, répondre à ces questions, ce n'est pas tout à fait facile, et cela pour plusieurs motifs. Tout d'abord, le manque de transparence dans ces matières, ces déficits démocratiques dont souffre la construction européenne en général, mais également les questions d'immigration, d'asile et de libre circulation des personnes. Un exemple dont on parle beaucoup moins aujourd'hui, mais qui a eu des grandes et surtout des graves conséquences en matière des droits fondamentaux des immigrés et des demandeurs d'asile, a été celui de la Convention de Schengen, qui a été adoptée dans un cadre strictement intergouvernemental où ni le Parlement européen ni les Parlements nationaux ont été informés de tous les tenants et aboutissants de l'élaboration de cette convention, encore moins la société civile. Toutefois, ces déficits démocratiques doivent être aujourd'hui quelque peu nuancés, parce que trouver aujourd'hui l'information est devenu beaucoup plus facile, et on peut dire aujourd'hui aussi que les institutions européennes, notamment le Parlement européen, s'impliquent de plus en plus dans l'élaboration de cette politique. Mais ce qui est difficile, c'est de se faire entendre. En tout cas, se faire entendre ou faire entendre les revendications de cette société civile qui demande le respect des droits fondamentaux des immigrants et des demandeurs d'asile dans l'élaboration de cette politique. Et pourquoi c'est difficile? Parce que tout simplement, elle semble déjà figée dans ses dogmes de contrôle des frontières et de lutte contre l'immigration clandestine. Une deuxième difficulté, c'est la diversité d'interlocuteurs. S'il y a interlocuteurs, il y a, on pourrait quand même se poser la question. L'externalisation déborde largement les questions d'immigration et d'asile, et on pourrait dire de cet espace de liberté, sécurité et justice, pour passer ou pour toucher aussi des domaines concernant la politique des affaires étrangères, la politique de développement qui joue un rôle très important dans ces domaines, ou encore la question financière. On a parlé de certains programmes financiers extrêmement difficiles à comprendre, encore plus à avoir accès. Alors, que faire? Avec quels moyens et avec quels objectifs? Nous essayons d'y répondre, même s'il ne s'agit que d'un début de réponse, un début toutefois qui nous permet de continuer la réflexion et de trouver d'autres moyens de lutte contre l'externalisation et donc du coup des défenses des droits fondamentaux des immigrés et des demandeurs d'asile et, le cas échéant, de demander réparation lorsque ces droits sont bafoués. Toutefois, comme le GISTI l'a affirmé en 1974 déjà, je cite, « Le droit n'est pas une panacée, mais il est une arme parmi d'autres. Sans illusion sur la portée des armes juridiques, nous pensons qu'il faut utiliser les ressources du droit pour en tirer, dans chaque cas, l'avantage maximal. Cependant, des actions cas par cas sont sans portée si elles ne s'en servent pas dans une lutte collective. » Donc, on doit aujourd'hui évoquer aussi la lutte collective, et c'est pour ça qu'on va faire état ici des différents réseaux associatifs qui ont été créés, qui travaillent, qui agissent dans les domaines politiques afin de dénoncer les stratégies européennes d'externalisation de la politique d'immigration et d'asile. Donc je vous propose dans un premier temps de regarder quels outils juridiques et dans un deuxième temps, quelle mobilisation. Pour ce qui concerne les outils juridiques, on va parler principalement de deux types d'instruments juridiques. Dans un premier temps, c'est des instruments juridiques adoptés au niveau européen, que ce soit dans le cadre du Conseil de l'Europe. Et là, on connaît pour le coup, on connaît bien cet instrument qui est la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et d'autres textes européens adoptés cette fois-ci dans le cadre de l'Union européenne. Et on pense là notamment à la Charte européenne des droits fondamentaux, qui bien que dépourvue de faits juridiques obligatoires, n'est pas moins aujourd'hui un texte de référence, et d'ailleurs la Cour de justice des communautés européennes fait allusion dans ses arrêts. Le second type d'instruments juridiques, ce sont ces instruments internationaux qui ont été adoptés dans un cadre plus large, comme celui de l'ONU. Et on pense là notamment à quelques instruments internationaux comme le Pacte international des droits civils et politiques de 1966, la Convention internationale des droits de l'enfant, qu'on connaît aussi bien, de 1991, ou encore la Convention internationale pour les droits des travailleurs migrants de 1990, sans oublier bien évidemment la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, il s'agit simplement de prendre quelques dispositions des instruments internationaux ou européens qui nous serviront ou qui seront utiles pour agir contre l'externalisation et, en tout cas, dénoncer la violation des droits fondamentaux des migrants et des demandeurs d'asile et éventuellement aussi demander réparation lorsque ces droits sont bafoués. Nous allons illustrer également l'utilisation de certains de ces instruments juridiques par des actions contentieuses qui ont été déjà entamées devant soit la Cour européenne des droits de l'homme, soit devant la Cour de justice des communautés européennes. Référons-nous tout d'abord aux textes européens et principalement à la Convention européenne des droits de l'homme, qui bien évidemment est, je dirais, le texte principal, non seulement par son contenu, mais également par son effectivité juridique, parce qu'il y a la Cour de Strasbourg qui assure effectivement l'application des dispositions de la Convention. Donc je vais parler bien évidemment de la Convention européenne des droits de l'homme, dont font partie tous les États membres du Conseil de l'Europe, actuellement 46 États, dont les 25 États membres de l'Union européenne. Trois dispositions sont particulièrement importantes pour s'attaquer à l'externalisation. Tout d'abord, l'article 3 qui prohibe les tortures et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, qui sont également interdits par l'article 4 de la Charte européenne des droits fondamentaux. Selon la Cour, cet article implique pour un État non seulement l'obligation de ne pas infliger des traitements inhumains ou dégradants à des personnes qui se trouvent sur son territoire, mais également à l'interdiction d'envoyer des personnes vers un État où ils vont risquer directement ou indirectement de subir ces traitements inhumains ou dégradants. Un deuxième article, c'est l'article 4 du protocole 4 de la Convention qui interdit, tout comme l'article 2-19-1 de la Charte, les expulsions collectives. Alors, par un arrêt, la Cour de Strasbourg a défini les expulsions collectives comme, je cite, « toute mesure contraignant des étrangers en tant que groupe à quitter un pays, sauf dans les cas où une telle mesure est prise à l'issue sur la base d'un examen raisonnable et objectif de la situation particulière de chacun des étrangers qui forment le groupe ». Enfin, troisième disposition dont on peut se servir, c'est l'article 5, paragraphe 1er, selon lequel toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales. Et parmi ces cas, c'est s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. Donc il faut quand même que les conditions d'atteinte à la liberté soient définies légalement, que la mesure de détention ait été prononcée par un juge ou par une personne habilitée, et que la personne qui a été objet de cette mesure ait été correctement informée tant des conditions, de la durée, de l'enfermement. Encore une fois, il faut aussi s'interroger dès la compatibilité de ces dispositions avec l'enfermement des demandeurs d'asile lorsque on sait bien qu'ils ne cherchent pas tout à fait à pénétrer irrégulièrement sur le territoire. Enfin, la Charte européenne des droits de l'homme prévoit également dans son article 2-19-2 « Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. » obligation qui est complémentaire de celle de non-refoulement des demandeurs d'asile prévue à l'article 33 de la Convention de Genève de 1951. Alors, voilà toute une série d'articles qu'on peut invoquer. Donc, on pourrait dire, ou on peut dire, qu'un État membre de l'Union européenne viole ces dispositions lorsqu'il procède en vue de se déresponsabiliser ou de se débarrasser de ses responsabilités internationales et de les endosser vers un pays tiers, que ce soit à travers des accords bilatéraux de contrôle aux frontières ou d'une manière plus insidieuse à travers de fortes pressions économiques, à l'enfermement et à l'éloignement des étrangers arrivés sur son territoire, et cela sans qu'aucun examen de la situation individuelle des personnes ait été effectué. Ça a été le cas, et on va citer un exemple, mais je pense, nous pensons qu'il pourrait en avoir tant d'autres, malheureusement. C'est notamment le cas de l'Italie à l'occasion des événements arrivés sur l'île de Lampedusa à l'automne 2004 et au printemps 2005. À ces deux occasions, l'Italie a procédé à des expulsions collectives de plus d'un millier de réfugiés ou de demandeurs d'asile et d'émigrants arrivés sur cette île, sans qu'aucune éventuelle demande d'asile ait été enregistrée, encore moins examinée, et en violation de tous les droits fondamentaux les plus élémentaires, comme par exemple l'accès à l'information sur leur situation, la notification des décisions, l'accès à un avocat, à un médecin, et sans parler des conditions déplorables dans lesquelles ils ont été maintenus dans un centre qui s'appelle centre d'accueil, centre de premier accueil, créé sur l'île de Lampedusa et ayant une capacité de 190 personnes, alors qu'à cette époque, il s'est trouvé plus d'un millier de personnes. Les autorités italiennes persistent et signent. Dans une réponse à une question du Parlement européen, le commissaire européen chargé de la justice, liberté et sécurité, M. Franco Frattini, qui est italien et ce n'est pas anodin dans cette affaire, a affirmé, je cite, « Les autorités italiennes ont aussi indiqué à la Commission que la réadmission en Libye de ceux de ces migrants qui y sont renvoyés s'est effectuée conformément aux accords entre les gouvernements libyen et italien, donc presque personne n'en a connaissance, et dans le respect de la réglementation de l'Union européenne ainsi que du droit international. Cela s'est fait dans la complète indifférence aussi bien de la Commission que du Conseil de l'Union et que des pays membres, malgré le fait qu'à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, il est dit, je cite, « L'Union est fondée sur les principes de la liberté, de la démocratie, du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'état des droits. L'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres en tant que principes généraux du droit communautaire. » Voilà, l'Union est fondée notamment sur le respect de ces droits fondamentaux. C'est pourquoi 10 associations de défense des droits de l'homme, 10 associations françaises, espagnoles, italiennes et belges, ont saisi la Commission européenne afin que celle-ci constate ces différentes violations des droits fondamentaux de la part de l'Italie et qu'elle engage un recours en manquement devant la Cour de justice des communautés européennes. La Commission a refusé d'examiner les biens fondés de la requête en estimant, et je cite, qu'elle n'a pas de compétences générales en ce qui concerne les droits fondamentaux. Elle ne pourrait agir donc que dans le cas, dit-elle, d'une infraction des droits fondamentaux dans le cadre de l'application du droit communautaire. Pourtant, je vous rappelle que le premier rôle qu'a la Commission, c'est celle d'être gardienne des traités, traités qui stipulent, comme on vient de le voir, que l'Union est fondée sur la base des respects du droit fondamentaux tel qu'il résulte de la Convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En face de ces refus, le GISTI a donc décidé de saisir le tribunal de première instance des communautés européennes, affaire qui se trouve actuellement en cassation devant la Cour de justice de Luxembourg.
Et vous êtes toujours dans les oreilles, loin du front. Pierre est toujours à la technique et Juliette vous présente encore la suite.
Donc on est toujours sur la journée d'études du GISTI sur l'externalisation de l'asile et de l'immigration. On va continuer avec Claudia Cortés-Diaz qui va davantage parler maintenant des mobilisations politiques.
Alors, on l'a compris, la responsabilité des États membres n'est pas la seule mise en cause dans cette question de l'externalisation. Bien évidemment, aussi, il faut qu'on se pose la question de la responsabilité d'États tiers. Et c'est pourquoi il nous semble important d'évoquer un texte qui est encore aujourd'hui assez mal connu de l'opinion publique, mais qui pourrait s'avérer très utile en matière de lutte contre l'externalisation si seulement existait la volonté politique des États, ne serait-ce que de signer, ratifier et de donner une effectivité juridique à cet instrument international. On parle ici donc de la Convention internationale sur la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leurs familles, qui a été adoptée le 18 décembre 1990 par l'Assemblée générale des Nations unies et qui est entrée en vigueur seulement le 1er juillet 2003 après la ratification des 34 États. Aucun État membre de l'Union européenne n'est là à ce jour ratifié. Elle s'applique donc à tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, indépendamment, et c'est là où le bât blesse, je pourrais dire, indépendamment de leur situation au regard du séjour dans le pays des transits ou des séjours. L'article 8 de cette convention, tout comme le pacte international des droits civils et politiques, parle du droit à l'émigration. Elle dit les droits à l'émigration dans les termes suivants. Les travailleurs migrants et des membres de leur famille sont libres de quitter tout État, y compris leur état d'origine. Cette convention prévoit également l'interdiction de la détention arbitraire ou également l'interdiction des expulsions collectives. Mais il y a un article qui pourrait aussi s'avérer utile, et c'est l'article 16, section numéro 4, qui dit « Nul, si ce n'est un fonctionnaire dûment autorisé par la loi à cet effet, n'a le droit de confisquer, de détruire ou de tenter de détruire des documents d'identité, des documents autorisant l'entrée, le séjour, la résidence ou la confiscation de ces documents doit donner lieu à la délivrance d'un reçu détaillé. » On pourrait donc prévoir l'utilisation de cet article, notamment par exemple contre les autorités marocaines qui, en octobre et novembre dernier, ont procédé à la destruction des documents d'identité et des documents attestant le dépôt d'une demande d'asile au Maroc à l'encontre des migrants subsahariens qui ont été expulsés massivement vers l'Algérie, vers la Mauritanie, encore au Sénégal ou vers le Mali. D'ailleurs, les témoignages des différents migrants peuvent tout à fait corroborer ces versions. Mais une fois qu'on a parlé des différentes dispositions de cette convention, il faut qu'on se pose quand même la question de l'effectivité juridique. Parce que l'article 72 prévoit qu'il y a un comité auquel les États membres ou les États parties de la convention doivent rendre des rapports pour dire quelles sont les mesures judiciaires, administratives ou législatives en application de cette convention. Toutefois, il est dit aussi que chaque État parti à cette convention doit reconnaître explicitement la compétence de ce comité pour connaître, examiner les plaintes individuelles des particuliers lorsqu'il considère qu'un État parti a violé ses droits. Donc là, c'est aussi que le bât blesse, parce qu'aujourd'hui, pour les peu d'États qui ont pu signer et ratifier cette convention, aucun n'a reconnu cette, explicitement, ni tacitement d'ailleurs, non, explicitement la compétence de ce comité. Il ne resterait donc qu'à se servir de la possibilité ouverte par l'article 74-4 qui stipule que le comité peut inviter des organes de l'ONU ou des ONG à soumettre par écrit, pour examen par le comité, des informations sur les questions traitées dans la présente convention qui entrent dans leur champ d'activité. Alors, voilà les différents outils juridiques, voilà quelques exemples d'actions juridiques, mais comme je l'ai déjà dit, l'action juridique ne peut être efficace, si efficace est-elle, que si elle s'en sert dans une action politique. Mais cette action politique, cette mobilisation politique doit sortir de ses réflexes nationaux pour s'élargir et pour poser la mobilisation mais au niveau européen, voire euro-méditerranéen. À l'occasion du Forum social européen de Florence à l'automne 2002, un séminaire avait été consacré à la réflexion sur l'Europe des camps. C'est dans ce contexte qu'a été créé le réseau Migre-Europe, qui a pour objectif fondamental de faire connaître la généralisation de l'enfermement des étrangers dépourvus de titres de séjour et la multiplication des camps comme pièce maîtresse de la politique européenne de gestion des flux migratoires. Alors, ce réseau est né d'initiatives collectives après le constat du camp de Saint-Gaath où tant d'immigrants s'étaient rassemblés cherchant à passer au Royaume-Uni. Mais finalement, les constats étaient que Saint-Gaath ne constituait qu'un bon exemple de la politique d'immigration et d'asile qui ne cherchait ou qui n'aboutissait finalement à rassembler des populations sans statut juridique dans des lieux hors droit. MigrEurope axe son travail autour des quatre points principaux. Premièrement, rassembler des informations sur une réalité qui est difficile à saisir du fait d'une certaine volonté de dissimulation, mais aussi de l'échelle géographique du phénomène. Deuxièmement, nommer une réalité multiforme qui ne peut pas se réduire à l'idée des camps de barbelés. Là, le camp, au sens où l'entend MigrEurope, c'est également, ou peut être également aussi, un processus et non un espace physique. L'Europe des camps, c'est l'ensemble des dispositifs qui constituent des points d'interruption forcés dans les itinéraires migratoires. C'est ainsi que c'est le fait d'interdire quelqu'un de passer une frontière, c'est aussi le fait d'interdire quelqu'un d'entrer sur un territoire, c'est aussi la possibilité de l'enfermer pour mieux le renvoyer, c'est encore le mettre en prison pour le punir de manière illégale. Enfin bref, c'est toute une série de formes qui peut aujourd'hui prendre le camp d'enfermement des étrangers. Encore aujourd'hui, et on le voit récemment, les camps constituent aussi, ou en tout cas il est revêtu de ces discours humanitaires qui veut qu'on les enferme pour les protéger, pour les éviter de se noyer dans la Méditerranée ou qui meurent dans le cours de leur chemin migratoire. Alors, troisième axe de travail, c'est faire connaître l'Europe des camps et les mobilisations qui s'y opposent. En utilisant tous les moyens de diffusion, et justement un des moyens de diffusion, c'est la carte de camp, carte qui a été présentée pour la première fois lors du Forum social européen des Saint-Denis en 2003 et qui a été réactualisée à deux reprises, en 2004, en 2005. Et vu la place qu'il y a aujourd'hui, les beaux jours qu'il y a devant elle, la question d'externalisation et d'enfermement des étrangers, je pense que malheureusement, MigrEurope va devoir continuer à réactualiser cette carte. Et le quatrième axe de travail, c'est agir à l'échelle européenne pour mobiliser contre cette Europe des camps en favorisant les échanges entre des groupes qui n'ont pas forcément les mêmes pratiques et les mêmes objectifs, mais qui peuvent ponctuellement se trouver ou agir ensemble côte à côte. Une de ces actions, ça a été à l'occasion des annonces des ministres de l'Intérieur allemands et italiens pour créer dans les États tampons Tunisie, Maroc, Libye, etc., Algérie, construire des portails d'immigration ou des centres d'accueil. MigrEurope a décidé donc de lancer en octobre 2004 un appel européen contre la création des camps aux frontières de l'Europe, lequel a été signé par une centaine de parlementaires européens, par de nombreuses ONG et encore des particuliers des différents pays. En juin 2005, disons que MigrEurope connaît un tournant parce que vous l'avez entendu parler, il y a le programme de la Haye qui affiche cette fois-ci de manière très claire et nette la question de la dimension externe de la politique européenne d'immigration et d'asile, donc l'externalisation continue. Et c'est pour ça que MigrEurope organise deux journées de travail et de mobilisation contre la sous-traitance de contrôle aux frontières extérieures. Mais si je parle ici d'un tournant, c'est parce que cette occasion a été l'occasion de jeter les bases de la structuration et de l'élargissement du réseau. Il faut dire que MigrEurope était composée à l'époque et encore aujourd'hui par pas mal d'associations, dont notamment Logisti, ANAFE, CIMAD et encore l'Association marocaine des droits de l'homme, mais par d'autres organisations italiennes, françaises, belges, espagnoles et anglaises, etc. Alors, cette structuration a été formalisée lors de la tenue de l'Assemblée constituante à Paris le 19 novembre 2005. Et aujourd'hui, un des objectifs principaux de MigrEurope est bien évidemment continuer avec l'analyse et la mobilisation contre l'enfermement des étrangers, mais également l'élargissement du réseau vers le pays du Sud, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc encore, la Libye, mais également vers des pays à l'Est comme l'Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie ou encore les nouveaux pays membres de l'Union européenne. Le Forum social mondial à Bamako, en janvier 2006, où MigrEurope a organisé trois séminaires consacrés à l'externalisation, l'expulsion et les mobilisations, a été une première occasion d'aller vers cet objectif de l'élargissement. Migre Europe n'est pas, fort heureusement, le seul réseau de mobilisation de la société civile contre l'externalisation. Il y a d'autres réseaux. La plateforme non gouvernementale Euromed, elle se situe, à la différence de Migre Europe, dans les cadres de partenariat euro-méditerranéen, au plus connu sous le nom de processus de Barcelone. Cette plateforme est composée par des organisations sur des thématiques très différentes, le droit de l'homme, l'environnement, les questions syndicales et culturelles. Il est là pour objectif, ou pour double objectif, de renforcer l'implication active de la société civile dans les processus de Barcelone et de promouvoir sa reconnaissance et sa participation en tant qu'interlocuteur clé dans les différents pays partenaires du partenariat euro-méditerranéen. Comme nous l'avons dit précédemment, ces outils juridiques et mobilisation ne sont qu'un début de réponse à la question du rôle et de la place de la société civile en matière d'externalisation des politiques d'asile et d'immigration. Cette journée d'études est également un des pas vers cette mobilisation pour s'attaquer à une politique qui met en danger non seulement les droits fondamentaux des immigrés et des demandeurs d'asile, mais également les bases de l'état des droits. Et quand on dit ça, on dit qu'elle met en danger la société tout entière. Merci.
Et voilà, donc c'était la dernière intervenante de cette journée d'études sur l'externalisation de l'asile et de l'immigration organisée par le GISTI le 20 mars dernier. Juliette, tu nous donnes peut-être... Oui, tu voulais rajouter.
Oui, que c'était Claudia Cortés-Diaz, donc membre elle-même du GISTI. Et donc j'en profite pour vous donner les coordonnées du GISTI, c'est www.gisti.org, tout simplement. Également de Migre Europe, www.migreeurope.org. .org qui fait une excellente carte sur les camps d'enfermement d'étrangers en Europe. Et puis on vous rappelle naturellement qu'il y a la mobilisation de samedi à 14h à République. C'est exactement dans la même thématique puisque Sarkozy, dans la droite ligne, essaye de trier les migrants pour répondre simplement aux ressources humaines de l'Europe.
Calais, c'est aussi à Paris. Calais, c'est tout autour de la gare de l'Est. Hein. Depuis que le camp de Sangatte a été détruit, il y a le même flux d'exilés afghans, alors de plus en plus afghans, de moins en moins irakiens et iraniens, de plus en plus jeunes, très très forte proportion de mineurs qui rajeunissent. Mais vraiment, on voit maintenant des gamins de 14-15 ans, à peu près tous les jours. Personne, alors là, facteur commun entre Paris et Calais, aucune autorité responsable de la protection des mineurs ne veut les voir. Il y a depuis maintenant des années une situation qui s'aggrave et qui est malheureusement invisible de la société civile. On a construit Sangatte pour cacher les exilés qui étaient dans le centre de Calais. On a détruit Sangatte pour cacher les exilés parce que Sangatte était devenu visible. Et maintenant, on a des petits Sangattes à Calais, un petit Sangatte à Paris, et puis on a des Sangattes de Cherbourg jusqu'à Rotterdam.